Alors à 7 heures, bon, il y a même le français qui commence à s'oxyder un peu, mais je pense que ça va aller. Alors, donc je préparais quelque chose pour parler de l'égalité, justement. Voilà, ceci n'est pas une prédication hein, pour les paroissiens qui sont là. Bon. Vous savez, il y a un bouquin que j'aime bien, c'est La ferme des animaux. Je pense que vous connaissez. C'est George Orwell, comment on dit avec l'accent français. Bon. Et je trouve qu'au départ, enfin, dans les premières pages, il écrit que tous les animaux sont égaux. Mais quelques pages plus tard, justement, la phrase se termine autrement. Il dit, oui, mais certains animaux sont plus égaux que les autres. Et je trouve ça très drôle. Mais ce retournement, n'est pas seulement une satire politique. Voilà. À mon sens, c'est un peu évidemment une description du réel. L'égalité, certes, est le mot peut-être le plus brandi, le plus chanté, le plus inscrit sur les frontons, mais certes aussi, voilà, le moins observé dans les fêtes. Et ce soir, je veux poser une question inconfortable quand même. Et si l'égalité n'existait pas, ni dans la nature, ni dans l'univers, ni dans nos textes fondateurs, au moins au sens où on croit l'entendre, et si l'égalité n'existait pas. Et je vais vous proposer trois mouvements, trois thèses pour parler de l'égalité. Alors je suis désolé, à mon sens, et bon, pour certains philosophes aussi, et pour l'univers, l'égalité n'existe pas. C'est pas très compliqué de faire ce constat. Regardez l'univers, la nature. Pas un seul flocon de neige identique. Pas deux empreintes digitales pareilles. Les étoiles naissent avec des masses différentes, vivent des vies différentes, meurent de morts différentes. L'homogénéité n'est pas la règle de l'univers, du cosmos. C'est plutôt l'exception. Et dans les théories de l'évolution, hein, de la sélection naturelle, Darwin nous l'a montré très clairement. La vie progresse par différenciation, par sélection, par inégalité des chances et des adaptations. C'est pas très beau à entendre ça, mais c'est la nature, c'est vrai. Parmi les humains, naissons-nous égaux? Eh ben non. Pas dans la même famille, pas dans le même pays, pas avec le même corps, avec le même cerveau. Et Rousseau lui-même, pourtant l'apôtre, voilà, d'une certaine manière de la bonté naturelle, distinguer les inégalités naturelles des inégalités politiques. Ce sont plutôt ces dernières qu'il voulait corriger. Il ne prétendait pas que la nature nous rendait identiques. Première thèse, donc, l'égalité n'est pas en fait. C'est une intention. Le deuxième mouvement, j'ai parlé de la Bible quand même, c'est mon boulot. La Bible ne parle pas d'égalité. Elle parle de quelque chose de plus grand. Voilà ce que peut-être ce qui peut nous surprendre. Dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, le mot égalité n'est pas le centre. Il n'est même pas le fil conducteur. Ce que la Bible porte, avec une insistance, je dirais presque violente, c'est la justice, la dignité, deux choses différentes. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs prophètes. Il y a le prophète Amos qui crie contre les marchands qui vendent le pauvre pour une paire de sandales. Ce n'est pas un discours sur l'égalité des revenus. C'est un cri d'indignation contre l'écrasement de l'autre, contre la déshumanisation. Et quelques siècles plus tard, on verra dans le Nouveau Testament l'apôtre Paul qui écrit aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Ce verset est souvent cité comme une déclaration d'égalité, mais en fait l'apôtre Paul ne supprime pas les différences. Il va juste dire que ces différences n'ont plus de pouvoir hiérarchique devant Dieu. Ce n'est pas l'égalité des conditions. Il va même en parler dans la première épître aux Corinthiens que l'Église est un corps. Et ce corps, voilà, il y a plusieurs organes. Il valorise, il met en valeur les différences. Donc, deuxième thèse, ce que la tradition biblique défend n'est pas l'identité des conditions. C'est plutôt l'inviolabilité de chaque personne, la dignité de chaque personne. Et pour le troisième mouvement, alors l'égalité, pourquoi faire? Un philosophe que j'aime bien, Emmanuel Kant, posait une règle qu'il appelait l'impératif catégorique. Agis de telle façon que tu traites l'humanité en ta personne comme en celle d'autrui, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. Pas un mot sur l'égalité des richesses ou des talents, mais plutôt une exigence absolue. Personne ne peut être réduite à un outil. Et puisque voilà, Patrick avait mentionné Tocqueville, et moi aussi je le cite un peu ici, on convoque Tocqueville souvent pour défendre l'idéal de l'égalité démocratique, mais lui, il était lui-même très lucide sur ses dangers. Il voyait dans la passion de l'égalité le risque d'un nivellement par le bas, d'une tyrannie où tout le monde est pareil, et personne n'est libre. Ce qu'il voulait sauver, ce n'était pas l'égalité comme une finalité, comme une fin. C'était la liberté comme une condition. Et alors peut-être la vraie question n'est pas comment rendre les gens égaux, mais plutôt comment empêcher que les différences deviennent des dominations. Et c'est là que la notion d'adelphité, dont nous faisons le fil rouge cette nuit, à mon sens, prend tout son sens. Fraternité, sororité, adelphité, non pas l'effacement des différences, mais le lien qui empêche que ces différences soient des armes. On ne choisit pas nos frères et sœurs. On ne le choisit pas pareil à soi. On apprend à vivre avec eux, malgré tout, à cause de tout. Troisième thèse alors, à mon regard, l'égalité n'est pas un état à atteindre, c'est une vigilance à maintenir. Et pour conclure, alors, l'égalité, une utopie possible? Alors, je vous propose de changer de mot, ou plutôt de l'enrichir. L'égalité stricte est une illusion. Et vouloir l'imposer à marche forcée produit des monstres. L'histoire nous l'a bien montré. Mais l'égale dignité, la justice comme protection de chacun, de chacune, le refus de la domination, cela, j'appelle une utopie qui exige. Une utopie qui nous appelle à agir, c'est-à-dire un horizon qui donne une direction à chaque pas. Et je cite Olivier Abel à citer Simone Weil, la philosophe. Il y a une phrase de Simone Weil que j'aime bien aussi. Elle a écrit que l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité. Et peut-être que l'égalité commence par là. Non dans les lois, non dans les chiffres, mais dans le regard qu'on pose sur l'autre. Un regard qui dit « Toi, tu comptes. Tu comptes autant que moi. Pas pareil que moi. Autant. » Et c'est alors que je comprends que l'égalité n'est pas une utopie impossible. C'est juste une promesse, une intention. Et peut-être la plus difficile des disciplines quotidiennes. Amen.